Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous pour ce second bulletin d'information de la soirée. La Russie a mis son veto à une résolution dénonçant le référendum de dimanche en Crimée et la Chine s'est abstenue lors d'un vote d'urgence au Conseil de sécurité ce samedi 15 mars. Les 13 autres membres se sont prononcés pour la résolution proposée par les États-Unis défendant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et dénonçant le référendum en Crimée. La décision de la Chine de refuser de suivre la Russie pourrait indiquer un plus grand isolement de Moscou dans son soutien au référendum de demain. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchourkine, a répété que Moscou estimait la mesure contraire aux principes du droit international. L'ambassadeur des États-Unis, Samantha Power, a réagi à la défaite de la mesure, la qualifiant de moment triste et remarquable. L'ambassadeur britannique Mark Leal Grant a dit que le message du vote était que la Russie est isolée au plan international. L'ambassadeur chinois Liu Jiei a déclaré que Pékin s'est abstenu car la Chine pense que la résolution ne ferait que compliquer davantage la situation en Ukraine. Demain dimanche, quelques 1 500 000 électeurs de la Crimée, province russophone autonome en Ukraine, sont appelés à se prononcer sur le rattachement de la région à la Russie. Des observateurs internationaux invités par Moscou et les autorités de Crimée ont commencé à arriver sur place. Dans le même temps, l'Ukraine a indiqué avoir repoussé une tentative d'incursion des forces russes dans une région proche de la Crimée et a appelé le Conseil de sécurité à empêcher une offensive des troupes russes. Par ailleurs, à Moscou, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés ce samedi pour des protestations rivales pro-russes et pro-ukrainiennes. Le Premier ministre malaisien Najib Razak a dit qu'il y a un degré élevé de certitude que quelqu'un a délibérément coupé les systèmes de communication sur le Boeing 777 qui a disparu du contrôle radar civil peu après son décollage le 8 mars. Il a déclaré que quelque part près de la frontière malaisienne, le transpondeur a été coupé avant que l'appareil ne se dirige vers l'ouest de façon paraissant délibérée. Le Premier ministre a indiqué que malgré les rapports des médias évoquant un détournement, les autorités malaisiennes examinent toutes les possibilités qui auraient pu faire dévier l'avion de sa trajectoire initiale. Une enquête sur l'équipage et les passagers est en cours. Kigali a qualifié d'étape importante pour la justice la condamnation du premier Rwandais jugé en France pour complicité de génocide. La cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans la nuit de vendredi dans le procès historique de Pascal Simbikangwa. Les 6 jurés l'ont déclaré coupable de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité et l'ont condamné à 25 ans de réclusion. Le procès de l'ex-capitaine rwandais de la garde présidentielle s'est ouvert le 4 février dernier. En 2004, Paris avait été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour la lenteur de ses procédures judiciaires à l'encontre des présumés génocidaires venus s'installer en France. Au moins 5 soldats égyptiens ont été tués au Caire ce samedi par des hommes armés. L'attaque que l'armée attribue aux frères musulmans intervient 2 jours après une autre ayant coûté la vie à un soldat. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, des islamistes basés dans le Sinaï ont multiplié les attaques contre les forces de sécurité, ayant coûté la vie à plus de 200 soldats et policiers. L'armée dit que les soldats ont été tués dans le nord de la capitale, à Soubra al-Kheima, et que les assaillants avaient également posé 2 bombes avec l'intention de les faire exploser au moment de l'arrivée des secours. Somalie, au moins 4 blessés dans un attentat à la voiture piégée en début d'après-midi dans le centre de Mogadiscio, selon les autorités. L'attentat a eu lieu près de l'hôtel Maka Hassin Moukara où une voiture chargée d'explosifs est égarée.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et une invitée en ligne à New York, Karine Jabre, responsable du programme des femmes en politique à l'Union interparlementaire. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Donc vous avez lancé le 11 mars donc une carte des femmes en politique. Pourrait-on commencer, s'il vous plaît, par la zone qui nous intéresse, surtout l'Afrique et au niveau des parlements, ce qui vous concerne plus particulièrement?
Oui, alors de manière générale, juste pour dire que depuis plusieurs années, on est en train de noter une bonne progression en termes des femmes en politique et des femmes au Parlement, plus particulièrement en ce qui concerne les femmes en Afrique. On est aujourd'hui à une moyenne régionale de 22,5% de femmes au Parlement et cela constitue une progression de 2 points. De pourcentage en un an, ce qui est assez impressionnant en termes de progression annuelle. Donc les femmes en Afrique sont quand même assez avancées par rapport aux autres régions du monde. Juste pour information, la moyenne mondiale des femmes au Parlement est de 21,8%. La moyenne régionale est plus élevée en Afrique.
Est-ce que vous auriez certains pays à nous citer en Afrique comme modèle, par exemple ?
En termes de chiffres, le pays qui est le premier sur l'échelle mondiale, c'est le Rwanda, qui donc, suite aux élections qui ont lieu en 2013, a quand même réussi à faire élire 63,8% de femmes au Parlement. Donc c'est le seul Parlement au monde qui a plus de 60% de femmes membres. Et là, je dois dire que le Rwanda, depuis la période de transition, a continué à progresser régulièrement en termes de participation des femmes au Parlement. D'autres pays ont connu cette année des avancées assez intéressantes. Le Kenya, même si la participation au Parlement demeure faible, autour de 18%, a adopté une nouvelle constitution dans laquelle on a maintenant des sièges réservés pour les femmes. Et ça a permis d'ouvrir un peu l'espace politique pour les femmes dans ce pays. Et je crois que ça, c'est une évolution qui est assez intéressante. Même chose au Cameroun, où la commission électorale a essayé de respecter des éléments du code électoral qui demande aux partis politiques d'avoir des représentants des deux sexes. Et donc la commission électorale a en fait refusé d'enregistrer plusieurs listes électorales de partis parce qu'ils n'avaient pas mis des femmes sur leur liste ou assez de femmes sur leur liste. Et du coup, en fait, la progression au Cameroun est assez importante cette année suite aux élections de 2013.
Alors ce que vous notez d'une manière générale dans votre rapport, finalement, ce qui est important, finalement, c'est la progression, c'est-à-dire le pourcentage de progression plutôt que le pourcentage de sièges accordés aux femmes ici et là. On note une progression importante et intéressante dans le monde arabe également.
Oui, cette année, c'était assez intéressant parce que la région arabe donc arrive à une moyenne régionale d'à peu près 16% de femmes au Parlement, mais c'est une progression de plus de 2 points. Donc, c'est-à-dire qu'en un an, ils ont vraiment fait un bond en avant. Et ça, c'est principalement dû à 2 pays, la Jordanie, où plus de femmes ont été élues cette fois-ci suite aux élections. Et en Jordanie, on a déjà un système de quotas, qui donc avec des sièges réservés pour les femmes, mais cette fois-ci, les femmes ont quand même réussi à se faire élire sur les listes générales. Donc ça, c'était un changement assez intéressant. Et le grand changement dans le monde arabe, c'est effectivement l'Arabie Saoudite qui avait un parlement donc nommé, mais d'hommes uniquement. Et cette année, le roi a nommé 20% de femmes au parlement, ce qui est énorme. Et donc, pour la première fois dans l'histoire du pays, donc 30 femmes sont au parlement. Et donc ça va vraiment changer les choses, je crois, tant dans le pays que dans la région. Et c'est ce qui explique aussi la progression assez impressionnante des femmes dans le monde arabe. Et je voulais juste mentionner aussi la Tunisie, bien qu'elle n'ait pas eu d'élection en 2013. La grande avancée, c'est effectivement l'adoption récente de la nouvelle constitution. L'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie, c'est aussi un événement, puisque cette constitution inscrit le principe de l'égalité entre hommes et femmes et demande à ce qu'il y ait donc des mesures prises afin qu'il y ait une égalité sur les listes électorales pour atteindre la parité dans les postes de décision. Donc je crois que pour le monde arabe, les choses bougent. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution qui est en train d'avoir lieu.
Parole de femme.
Parole de femme.
Alors toujours au niveau parlementaire, l'on constate tout de même qu'il est beaucoup plus facile pour une femme d'être vice-présidente que présidente d'un parlement.
Oui, absolument, tout à fait. Et là, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Les femmes arrivent à monter petit à petit l'échelle, mais plus on arrive vers le sommet, moins il y a d'opportunités, de chances pour les femmes. Aujourd'hui, il y a 14,8% de femmes présidentes de parlement, mais il y a à peu près 24% ou un peu plus, je crois, au niveau des femmes vice-présidentes. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup d'obstacles auxquels font face les femmes au sein des parlements et même dans d'autres organes décisionnels. Il faut qu'elles puissent faire leur espace, avancer petit à petit, qu'elles aient le soutien politique afin d'arriver aux plus hauts échelons de la prise de décision. Et on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là.
Alors, quels sont les continents où l'on a le plus de femmes chefs d'État ou de gouvernement ?
Il y a aujourd'hui 18 pays qui ont une chef d'État ou de gouvernement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 2012, donc ça a pas mal stagné. Mais les pays ou les régions peut-être où il y a le plus de femmes à ces postes, c'est l'Amérique latine et en Europe. Mais surtout en Amérique latine où il y a 6 femmes qui ont un poste, soit de présidente ou de chef de gouvernement. Brésil, l'Argentine, récemment le Chili, Costa Rica, etc., etc.
Alors j'ai noté dans votre communiqué, et je cite, « Si l'on fait abstraction des pays nordiques, les continents américains et africains sont ceux qui comptent le plus de femmes ministres ».
Oui, effectivement. Donc, si vous regardez les pays qui ont plus de 30% de femmes au sein de leur gouvernement, je crois qu'il y a plusieurs catégories. Il y a effectivement des pays qui ont une culture égalitaire depuis longtemps et donc où l'accès des femmes au gouvernement est assez courant. Ça, ce sont surtout les pays nordiques qui ont effectivement des pourcentages assez élevés de femmes au gouvernement et même paritaires. Puis après, vous verrez que la plupart des pays qui sont au-dessus des 30% au niveau ministériel, ce sont des pays soit d'Amérique latine, soit effectivement d'Afrique. Ça, c'est vraiment lié à une volonté politique d'avoir des femmes au gouvernement. Certains pays africains et même d'Amérique latine ont des quotas qui sont inscrits soit dans leur constitution, soit dans d'autres règlements qui demandent à ce qu'il y ait un certain pourcentage de femmes dans tous les postes de prise de décision publique, donc y compris au gouvernement, donc ce qui peut expliquer certains chiffres. Mais je crois qu'il y a aussi maintenant de plus en plus d'une reconnaissance et d'un besoin d'avoir donc un gouvernement qui reflète beaucoup plus la composition d'une société. Et donc ça, on retrouve ça en Amérique latine et en Afrique. Mais je dois dire aussi qu'au gouvernement, contrairement au Parlement, parce que le Parlement est le résultat d'une élection, d'un processus de jeux électoraux et partis politiques, etc., le gouvernement, il y a aussi la volonté politique. Si un chef d'État ou une chef d'État décide que c'est son objectif d'avoir un gouvernement paritaire, ben c'est effectivement beaucoup plus facile. Et dans ce cas-là, par exemple, certains chefs d'État ont pris des engagements pendant leur campagne qu'ils ont mis en œuvre, par exemple comme le président français François Hollande, qui s'était engagé à un gouvernement paritaire et qui l'a réalisé une fois élu. Et la France est le pays européen, à part les pays nordiques, qui a un gouvernement paritaire. Et récemment, maintenant, l'Italie aussi s'est engagée sur cette voie-là.
Alors, pour revenir un petit peu sur le plafond de verre, d'une certaine manière, au niveau général, toujours au niveau des ministères, l'on sait également qu'il est toujours plus facile d'être ministre des Affaires sociales ou du genre quand on est femme que ministre de la Défense ou des Affaires étrangères.
Oui, c'est toujours le cas, même si l'évolution commence à changer un peu, c'est-à-dire qu'on voit une plus grande diversification des postes ministériels tenus par les femmes. En majorité, c'est toujours les affaires sociales et familiales qui sont prédominants, mais c'est vrai que maintenant, on retrouve quand même plus de femmes dans ce qui concerne, par exemple, on a vu une montée en puissance des femmes avec les portefeuilles qui concernent l'environnement, et puis quand même quelques femmes aussi en défense et en affaires étrangères, beaucoup moins en ce qui concerne le budget ou les affaires parlementaires ou l'agriculture, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même aussi certains cas atypiques. Par exemple, je crois que c'est au Qatar où la seule femme ministre n'est pas la ministre des Affaires sociales ni des Affaires familiales, mais ministre de tout ce qui concerne les technologies et communications. Donc là aussi, vous avez des avancées assez intéressantes et surprenantes dans certains coins du monde où les femmes commencent à prendre des espaces qu'on ne leur donnerait pas d'habitude.
Quelles sont les conclusions de votre carte des femmes en politique et quelles recommandations faites-vous finalement?
ce qu'on voit, c'est qu'il y a une avancée, il y a un effet qui commence à être un effet boule de neige où la question des femmes en politique maintenant devient une priorité et un objectif pour lequel beaucoup d'acteurs travaillent ensemble. Mais pour faire avancer les choses, il faut de la volonté politique, il faut aussi que les partis politiques jouent le jeu et il faut que les femmes aillent de l'avant et aient confiance en elles et prennent cet espace pour elles. Il me semble à moi aujourd'hui que les populations et les citoyens ne peuvent plus concevoir un parlement ou un gouvernement où il n'y aurait pas un certain équilibre entre hommes et femmes. Et ça, je crois que c'est une grande avancée parce que maintenant, c'est ça la normalité, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui nous représentent. Il reste à savoir comment atteindre cet objectif-là. Et pour ça, il faut volonté politique, parti politique, candidate et beaucoup de courage, je dois dire.
L'on remarque depuis un certain temps finalement que la progression est très importante en Afrique, et vous avez cité le Rwanda. Si l'on pouvait comparer finalement à des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, je ne sais pas d'autres pays, vous avez cité la France qui progresse dernièrement parce qu'il y a une nouvelle politique, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme comparatif ?
On se pose souvent la question entre ce qu'on appelle les vieilles démocraties et qui avancent peut-être beaucoup moins rapidement ou qui ont plus de mal à se remettre en question et les nouveaux pays qui sortent souvent d'une phase de conflit et qui sont en train de se reconstruire et qui savent utiliser ces opportunités de changement pour instaurer justement de nouvelles règles qui facilitent l'accès des femmes au gouvernement. Je crois que les pays qui sont en train de se construire et qui sortent d'une période difficile de leur histoire, c'est une opportunité pour les femmes et c'est pour ça que là, on voit des avancées. C'est plus difficile pour les plus vieilles démocraties où la remise en question n'est pas si évidente que ça. Et pour changer les règles et la culture politique, ça prend énormément de temps. Alors c'est pour ça qu'il faut parfois un peu casser certaines règles, aller de l'avant, adopter des quotas qui sont peut-être un peu plus contraignants. Mais je crois que c'est seulement en faisant cela qu'on arrivera à ouvrir une porte pour faire avancer les choses. Parce que si on doit attendre juste l'évolution des mentalités, et surtout dans le domaine politique, alors ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ce qui est intéressant maintenant dans nos pays européens ou en Amérique du Nord, c'est que les femmes parlent plus, demandent plus et se font plus entendre. Et je crois que les décideurs politiques se rendent compte que ce n'est plus à leur avantage de ne pas ouvrir cette porte pour les femmes. Donc, moi, je suis assez confiante que d'ici quelques années, on verra plus de progrès en Europe et dans nos vieilles démocraties.
Merci beaucoup, Madame Jabre. Donc, voilà, c'était Karine Jabre, responsable du programme des femmes en politique à l'Union interparlementaire.
Au revoir.
Entre parenthèses.
À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, a approché des militantes africaines pour un bilan des acquis et des défis à relever. Écoutons-la.
En Afrique, dans la réalité, les femmes ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes malgré l'égalité entre les deux sexes reconnue par les différentes constitutions. Cette disposition contenue dans les lois fondamentales porte en elle des germes qui peuvent entraver l'accès des femmes aux sphères de prise de décision. Dans le Parlement béninois, les femmes représentent moins de 10%. Une situation qui est la résultante du refus de faire une discrimination positive à l'égard des Béninoises. Françoise Assogbagodonou, ministre béninois chargée des microfinances, de l'emploi des jeunes et des femmes.
L'égalité entre la femme et l'homme, c'est une réalité sur papier. Toutes les initiatives qui ont été prises pour réserver un quota pour les femmes, pour qu'elles représentent peut-être 20% ou bien 30% des députés à l'Assemblée, toutes ces initiatives-là ont été battues en brèche. Notre constitution dit que l'homme et la femme sont égaux. Donc, il n'y a pas question de faire une exception pour les femmes. Donc, elles doivent se battre autant que les hommes pour pouvoir aller à l'Assemblée.
Au Niger, la femme ne peut pas entreprendre librement compte tenu du poids de la société. Aïcha Sani, de la direction de la promotion féminine du Niger.
Quand tu dis que voilà, j'ai de l'argent, il faut que je parte dans un pays, en Chine par exemple, ou à Dubaï, pour prendre des affaires, amener, faire le commerce. La société pense qu'elle est supérieure à l'homme s'il la laisse partir, ou bien c'est la prostitution qu'elle va faire. Toutes ces choses-là, c'est des obstacles majeurs qui freinent la femme.
En République démocratique du Congo, certaines pratiques culturelles volent un temps fou à la femme, ce qui compromet son autonomisation. Irène Lubika Meta, conseillère au ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant en RDC.
Lorsque vous allez dans un deuil chez nous, la majorité des personnes qui y sont, ce sont des femmes. Et lorsque vous n'êtes pas présente en tant que femme, étant concernée par un deuil, vous êtes indexée. Mais en termes de productivité, en termes de rentabilité, je crois que c'est un frein qui mérite d'être souligné. Le temps passé au deuil, c'est du temps volé à la femme. Je crois que le problème de la femme, c'est que nos coutumes lui volent assez de temps.
La femme africaine en difficulté, c'est aussi celle qui a fui son pays pour cause de guerre. Témoignage de l'Ivoirienne Elisabeth Gogoa, réfugiée au Togo depuis 3 ans.
Une femme réfugiée, c'est celle-là qui a tout perdu. La vie au quotidien, c'est difficile. Parce que vous n'avez pas les moyens, tout devient compliqué, vous devez tendre la main avant de trouver quelque chose à manger. En tant que femme, vous manquez le nécessaire. Simple habillement, c'est un problème. C'est terrible, mais puisque c'est la vie. Nos petites filles de 14 ans se prostituent, la vie est devenue très difficile, mais on fait avec.
Compte tenu des exigences de développement, la question de l'égalité entre l'homme et la femme ne devrait pas être perçue comme un combat des femmes pour les femmes contre les hommes, mais plutôt comme une lutte commune en vue d'endiguer la pauvreté. Kay Lawson pour La Voix de l'Amérique.
Chères auditrices et auditeurs, le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique est sur Facebook. Cliquez sur like si vous aimez. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette page, sur des sujets qui vous concernent et vous intéressent particulièrement. Vous pouvez également proposer des invités, proposer des sujets et participer à une émission. Vous pouvez écouter le magazine au féminin sur le site de La Voix de l'Amérique. Cette émission hebdomadaire est diffusée tous les samedis à 19h30, temps universel. Une tactique de guerre employée mondialement, les attaques contre des écoles et l'éducation en général. C'est ce que démontre un rapport disant que l'Afrique subsaharienne est gravement affectée. Écoles, universités, étudiants et enseignants font l'objet d'attaques ciblées, délibérées dans les conflits à travers le monde, souligne la Coalition mondiale pour protéger l'éducation contre les attaques. Le rapport intitulé « L'éducation prise pour cible 2014 » passe en revue 30 pays dont la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Nigeria, la Somalie, la RDC et la Centrafrique. La coalition appelle les États et les groupes armés à respecter les lieux scolaires comme zone de paix, voire à les protéger lors d'un conflit. Écoutez Véronique Aubert, chargée de recherche sur les conflits armés à Save the Children.
Les groupes armés non étatiques, comme les forces militaires ou les forces de sécurité nationales, attaquent l'éducation pour servir leurs propres intérêts. Ils l'attaquent parfois en guise de représailles contre le soutien perçu d'une communauté à l'opposition. Ils cherchent à démontrer un manque de contrôle de l'État. Ils attaquent les bases des bâtiments scolaires ou les utilisent parfois pour des longues périodes et empêchant les élèves d'aller à l'école ou les mettant à risque. Et s'opposent parfois à la propagation d'idées considérées comme étant répréhensibles, comme par exemple l'éducation des filles ou les valeurs des pays de l'Ouest. Et donc, au Nigeria, on sait qu'un grand nombre d'écoles ont été visées, attaquées par des militants pour s'opposer aux valeurs enseignées dans les écoles auxquelles ils se sont attaqués.
Alors, vous avez bien précisé dans votre rapport que très souvent, finalement, dans des guerres civiles ou autres, les belligérants utilisent les écoles. On a plusieurs cas. Les forces sont basées donc dans des bâtiments scolaires, les utilisent. Et en plus de ça, et bien évidemment, ces écoles deviennent la cible des ennemis des forces qui occupent ces écoles.
Exactement. Et ça a été par exemple le cas en Somalie en 2010, où un des témoignages raconte que lorsqu'il se trouvait en classe, l'école a été frappée par une arme qui lui semblait résonner comme un tonnerre, faisant une explosion et qui a tué 3 enfants dans cette attaque parce que l'école avait été utilisée à des fins militaires et qu'elle était occupée et donc elle s'était retrouvée comme un véritable champ de bataille. bataille. Sur ce sujet, la coalition a engagé un processus international pour essayer de protéger mieux les écoles, qui passe par 6 lignes directrices, les lignes directrices de l'USAN pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés. Ces lignes directrices s'appuient sur les droits humains internationaux, sur le droit humanitaire et puis sur les bonnes pratiques pour permettre de préserver l'éducation comme un sanctuaire en période de conflit, avec pour objectif que ces lignes directrices soient intégrées dans la doctrine militaire des États pour que les groupes armés ou les forces militaires réfléchissent à la meilleure façon d'essayer d'éviter les élèves pour qu'ils soient mieux protégés.
Vous venez d'entendre Véronique Aubert, chercheure à Save the Children. Et à présent, voici un reportage de notre correspondante à Bukavu, dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC, Jolie Kamuntu, qui a tendu son micro à des militantes lors de la Journée internationale de la femme qui s'est donc déroulée le 8 mars dernier. On l'écoute.
Les autorités provinciales ont organisé une cérémonie le 8 mars marquant le lancement des activités du mois de la femme. Ces autorités disent témoigner leur volonté d'accompagner les femmes dans leur lutte et mettre en application les lois pour la promotion du genre. Elles insistent cependant sur le rôle des parents dans l'éducation de la jeune fille. Jacqueline Nguengele est chef de division genre, famille et enfants au sud Kivu.
Le message clé s'adresse d'abord aux mamans, qu'elles comprennent que nous, mamans, nous devons tout faire pour faire étudier nos enfants, surtout filles. Parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des filles qui subissent des violences sont des filles analphabètes. Parce que quand une fille est instruite, elle sait comment faire ce qu'on appelle gagar de filles. Nous devons oublier le moment passé où nous nous mettions dans les rues en train de défiler avec des pagnes. Il est temps maintenant de sensibiliser, d'éduquer, d'informer et de former. Les autres femmes, d'abord, et surtout la jeune fille.
Du côté des femmes journalistes également, la réflexion sur les défis professionnels a été menée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Madame Louise Bonga Bonga de la Radio-Télévision nationale congolaise du Sud Kivu a eu ceci comme impression.
Nous constituons une force. Nous ne devons pas nous négliger. Les différentes violences qui existent à la RTNC, nous devons les signaler, nous devons les prononcer, nous devons nous lever parce que nous constituons une force pour pouvoir prononcer ces différentes violences afin que les autorités puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça à côté.
À cette même occasion du 8 mars, la coalition des femmes leaders réunie dans le cadre du groupe de travail Women in Leadership avec l'accompagnement de International Medical Corps organise une tribune d'expression populaire du 8 au 11 mars. Selon la secrétaire exécutive de Women in Leadership, cette activité est organisée pour permettre aux femmes des différentes catégories de s'exprimer pour adresser leurs revendications aux autorités compétentes. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique.
Et voilà, on arrive au terme de ce magazine, le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge. Rendez-vous samedi prochain à 19h30, tout juste après les infos. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you rise.
Kauleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kauleza, Mama, which simply means, hurry, Mama, please. Please don't let them catch you. Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sawo. Nanga mapoisa zonga.